Hop.
Qui
Ce qui
mange?
mange.
Par où c'est moi?
On n'est qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. Les températures baissent, si si, un peu, surtout le soir. En tout cas, il fait nuit très tôt, donc on s'installe devant son écran, quelle que soit la taille, et on lance les séries de cet automne. Alors, pas de grosses surprises pour nous, et on en parle avec l'influent Maxime.
Ah, c'est vrai.
Le philosophe Stéphane.
Ah, c'est gentil.
L'humble Aki.
Merci. La vérité sort de la bouche de Tom, merci.
Et la diplomate Mélanie.
Ah, c'est nouveau, ok, merci.
Alors au sommaire, la fin de The Good Fight, et je n'ai pas donné une émission entière pour en parler, et les quelques séries que les plateformes ont osé nous offrir. Alors on commence donc par une fin, celle de The Good Fight, ça y est, enfin ils nous ont lâché avec celle-là. Oh. Stéphane, commence ton éloge funèbre.
Je ne sais pas quoi dire, tellement je suis traversé par toutes les émotions, rien que d'y penser à nouveau. C'était beau, c'était fort, c'était intelligent. Et franchement, Diane, ouais, mais quand c'est réussi, quoi. Et Diane, Liz, et tous les autres vont me manquer, quoi. Terriblement. Mais alors vraiment terriblement.
Oui.
Je n'arrive pas à conceptualiser le fait que je ne les reverrai plus. Mais vraiment,
Oui.
C'est dur. Merci à qui de valider mes propos.
Oui.
Elle n'a jamais été autant pertinente à qui, en tout cas.
Ouais. Mais tu m'as dit de préparer un truc et en fait, j'ai essayé et en fait, j'y arrive pas. C'est terrible, hein, mais je suis perturbé, je suis triste. Voilà, je ne sais pas quoi dire. On vient de perdre une très, 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 très grande série.
Voilà, c'était ma question pour conclure le débat. Donc.
C'est quand même très compliqué de parler de cette série, je trouve. Hein.
Oui.
Moi, quand j'essaie de la pitcher à des potes pour qu'ils la regardent, parce que forcément il faut faire du prosélytisme quand c'est les Kings, j'ai énormément de mal à les accrocher à la série. Et pourtant, vraiment, quand j'ai terminé l'épisode hier, voilà le dernier, je me disais mais punaise, pourquoi personne ne regarde cette série ? Je comprends pas tellement je la trouve intelligente. Alors pour moi, c'est un des trucs les plus intelligents que j'ai vu de toute ma vie. La série la plus pertinente qu'on puisse avoir depuis 10 ans. Enfin,
Je soutiens tout. En plus, quand tu la regardes, toi-même, t'as l'impression d'être un peu intelligent, quoi. C'est incroyable. Vous avez tout dit.
Elle était utile au débat, hein, malgré tout. Les gens ne la regardaient pas, elle était quand même utile au débat de ce qu'elle a raconté de l'Amérique et de ce ça dit des gens, quoi.
Alors...
Après, c'est sûr que c'est très parti pris, quoi. Et tant mieux, en fait. Mais est-ce que c'est ça, justement, qui fait que ça peut pas être grand public parce que c'est tellement démocrate?
Alors, moi, je pense déjà aussi qu'il y a la barrière du pays. En France, on voit les choses d'une manière différente par rapport aux États-Unis. Et je pense que, du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'appréhender la série et ce qu'elle dit sur la société américaine du point de vue d'un Français qui ne connaît pas tant cette dichotomie qui règne au sein du pays entre les républicains et les démocrates, mais aussi entre deux visions de quelque chose de très quasiment dictatorial et des grands idéaux dans la démocratie. Et du coup, je pense que de France, c'est quand même vachement compliqué de se dire que ces intrigues peuvent nous toucher.
Tu crois? Enfin, je veux pas non plus penser qu'on est si différent que ça de beaucoup de gens, quoi.
Non, mais je pense qu'en fait, l'intrigue en elle-même, elle paraît un peu absurde parce qu'ils exacerbent un peu tout ce qui se passe et à raison. Moi, je suis totalement pour. Je trouve que c'est ce qui fait que ça passe aussi bien. Mais on peut s'y retrouver qu'à un deuxième niveau de lecture quand Diane questionne le fait de vivre dans un monde complètement fou, qu'est-ce qu'on fait de la santé mentale alors que tout ce qui se tourne autour de nous, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde est si pessimiste. Mais après, sur les problèmes qui règnent aux États-Unis en eux-mêmes et qui sont quand même une partie de la série, c'est là où moi je pense qu'on a un peu le public français, en tout cas le grand public français, peut ne pas s'y retrouver. Et du coup, je comprends. Mais ça lui donne aussi un...
Oui, non, mais tu dis ça vis-à-vis du public français, mais les Américains ne la regardaient pas non plus. Hein.
C'est vrai.
Je sais pas, je suis pas les audiences.
Moi, je vais dire que il y a cette dernière saison, ils ont beaucoup joué sur les réseaux sociaux, hein, et notamment il y a un petit excerpt de Michael Botman qui joue Julius Kane, qui dit en un mot la série qu'elle est prescient. Et j'ai trouvé ça hyper juste dans le sens où au début ouais on se disait c'est une série judiciaire juste un petit peu edgy, un peu différente et c'est tout, mais au fur et à mesure à partir de la saison 3 vraiment je dirais, c'est là où elle a vraiment commencé à anticiper tout ce qui a pu être, et là je suis sûre qu'avec cette fin de saison ils ont touché du doigt quelque chose d'encore plus vrai qu'avant quoi, bref, et donc là on va encore voir le pouvoir, le super pouvoir des Kings.
Les deux dernières minutes, je me suis demandé s'ils les avaient tournées au dernier moment ou pas, parce que vraiment, c'est ça fait peur de...
On saura demain s'ils avaient raison.
Oui, ouais. C'est ça.
Et franchement, c'est assez ouf de terminer sur ça et de boucler la boucle littéralement, là, pour le coup.
Vous vous rendez compte que l'intrigue du dernier épisode, donc, avec les accusations d'agression sexuelle de Ron DeSantis, donc le nouveau gouverneur de Floride, le prochain opposant de Trump dans son propre parti, c'est à quel point, pour tout montrer, prouver que les Américains sont vraiment débiles profonds. Il y a des médias d'extrême droite qui l'ont pris au premier degré.
Au sérieux.
Même les Kings, ils étaient atterrés de voir que leur intrigue, qui est pourtant démontée à la fin de l'épisode, a été pris au premier degré et qu'ils se retrouvaient à être attaqués à cause de ça, quoi. Enfin, c'est pour te dire à quel point ils ont encore mis le doigt là où il ne fallait pas. Et ils ont fait ça avec intelligence, encore une fois, pour nous montrer que les Républicains et qu'encore une partie de l'Amérique est vraiment débile profond. Voilà.
Bah, c'est comme la fois où, tu sais, Selena Gomez avait pris la mouche aussi parce qu'ils en ont parlé sur l'humour, là.
Ouais.
Donc, bon. Ouais. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça super touchant, cette fin, et inattendue. Voilà, vraiment inattendue. Les deux derniers épisodes, je sais pas ce que je regardais, en fait, et j'étais à la fois triste, comme tu dis, Stéphane, et aussi ravie qui puisse avoir une belle fin, en fait. Parce que je trouve que les personnages, c'est pas une porte qui se ferme, mais c'est une porte qui s'ouvre. Voilà. Donc ça, je trouve ça cool.
Ils pourraient même faire encore un spin-off. Hein.
Ils pourraient, mais j'espère pas, hein. Honnêtement. Ouais, mais j'espère pas. Même si, moi aussi, les personnages, Marissa et tout, m'ont trop manqué, mais bon.
Et puis moi, ils m'ont quand même donné une des scènes les plus jouissives de toute la série. Quand ils rejouent le générique dans l'épisode final, j'ai trouvé ça...
Incroyable.
C'était malin. Hein.
Ah, mais tellement. Incroyable.
Et justement, vous parliez de la fin la dernière fois quand on a parlé de la série. Est-ce que pour vous, Aki a dit qu'elle était surprise de la fin, mais est-ce que pour vous, c'est vraiment une surprise ou pas?
Je dirais oui et non. Comment finir une série aussi actuelle sans parler d'actualité et comme disait Aki, peut-être même d'être prescient et de préparer l'avenir? En fait, c'était logique qu'ils finissent avec du Trump, quoi. Voilà. Donc,
Moi, ce qui m'a étonné pour une fin de série, c'est à quel point ça ne s'empêche pas d'être dark. Il donne une certaine ouverture, en effet, au personnage, comme quoi il faut continuer le combat. Mmh. Mais au-delà de ça, toute l'atmosphère qu'ils ont construite pendant la saison 6, vraiment de chaos, ça ne disparaît pas parce que c'est la fin de la série. Ça reste là, c'est continu, ils ne règlent pas ça. Ils essayent juste de faire rebondir un peu les personnages alors qu'ils étaient tous en complète dépression.
Donc, Jay, très bonne évolution, un peu tiré par les cheveux, certes, mais très malin, encore une fois.
Ouais, mais tiré par les cheveux, oui et non. Enfin, moi, je pense que dans l'écosystème de la série, c'est limite banal.
Mais est-ce que ça va pas justement mal vieillir à cause de cette présence un peu d'actualité?
Non. Parce que pour moi, ça peut être un regard sur l'histoire avec un grand H même sans le recul qu'ils n'ont pas, quoi, parce que c'est actuel, quelque part, elle est tellement bien écrite que c'est comme s'il y avait déjà ce recul-là. Et donc, en fait, c'est vraiment quand, dans 15, 50 ans, 100 ans, j'en sais rien, je ne sais pas si les séries existeront encore dans 100 ans, mais quand on reverra The Good Fight, on se dira, ah ouais, ils avaient des... Pardon, je vais être vulgaire, mais ils avaient des balls quand même à ce moment-là.
Elle sera peut-être moins bingeable comme peut l'être The Good Wife. C'est moins procédural. On ne retrouve pas une dynamique à tous les épisodes. Vraiment, ils se permettent des choses où, d'un épisode à un autre, l'aspect judiciaire peut être complètement 30e plan. Et du coup, en ça, c'est vrai que ce sera peut-être pas... on ne pourra peut-être pas la regarder plus tard comme on l'a vu aujourd'hui, mais en effet, ils sont tellement talentueux que de toute façon, on regardera juste pour ça.
Mais en fait, on a assisté à l'écriture d'un cours d'histoire sur les années Trump. Et
oui.
En fait, il n'y a aucune autre série, que ce soit sur le câble, que ce soit sur les plateformes, que ce soit à la télévision, en fait, sur les networks, qui a été capable de synthétiser tout ce que l'Amérique a vécu en si peu de temps que celle-ci. Et en fait, elle va être culte et juste à cause de ça, quoi.
Oh, la Bréa le fait, hein. Non, c'est faux.
Oui. Pardon. Non, mais c'est-à-dire qu'on, enfin, on y retournera aussi pour redécouvrir ce qui ça a pu être les années Trump, quoi. Et sur comment ça a commencé. Et je suis sûr qu'elle sera étudiée, cette série, en fait. C'est obligé qu'elle soit étudiée à un moment donné ou à un autre dans les 5 ou 10, 15 ans à venir.
Alors, la question, c'était, est-ce que c'est une grande série? Bon, Stéphane a répondu, mais est-ce qu'elle surpasse sa grande sœur, enfin même sa mère, Good Wife?
Honnêtement, c'est pas pareil. Comme ouais. On disait, The Good Wife, c'est quand même, il y a une formule un peu plus classique. Alors que dans The Good Fight, ils ont même... tout l'aspect créatif est quand même vachement... Enfin, ça va plus loin, quoi. Enfin, vous vous rappelez quand il y avait encore des numéros musicaux.
Ils avaient plus de liberté.
Bah oui, bien sûr. C'était sur la plateforme. Ils avaient beaucoup plus de liberté. Ils sont amusés. Et eux-mêmes disaient, je m'en rappelle encore, ils disaient qu'ils n'avaient pas de limite, quoi. Genre, Et carte blanche.
Pour le coup, pour moi, c'est l'exemple même de tout ce que devrait être un spin-off, c'est-à-dire pas vraiment un spin-off de la série mère, parce que, ok, ils partagent un univers commun, des personnages... commun aussi, mais dans le ton, dans ce que ça veut dire, ils ont complètement changé de braquet et ils ont réussi à créer une identité propre. Donc,
mais malgré tout, ça respecte le personnage de Diane qui a eu 7 saisons dans The Good Wife et qui en a eu 6 de plus dans The Good Fight. Et l'évolution du personnage est quand même magique. Voilà. Alors, est-ce complète, mais The Good Fight est complètement différente, comme disait Maxime. Il y a un ton différent qui fait que, en fait, elles sont complémentaires et tout aussi magiques les unes que les autres. Quoi.
Ils ont refait un dernier clin d'œil à l'avant-dernier épisode pour souligner qu'ils n'avaient pas oublié la série mère. Quand ils reparlent de Alicia
et Carrie.
Et on ne sait plus comment. Carrie, ouais.
Oui. En plus, je sais pas pour vous, mais je connais pas beaucoup de séries qui ont été censurées pendant leur diffusion, quoi. Ouais. Voilà.
Est-ce qu'on peut plonger dans The Good Fight sans avoir vu Good Wife?
Oui, il y a un problème.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est mieux d'avoir le passé package d'un personnage.
Ne serait-ce que pour comprendre tous les clins d'œil, tous les personnages qui reviennent, pour comprendre Diane, même si je pense que la série en elle-même n'empêche pas qu'on comprenne le personnage. C'est vrai.
Disons qu'on l'apprend quand même à deux époques différentes de sa vie aussi. Oui. Donc,
Ouais.
Elle est dans ton top 5, Stéphane?
Je fais plus de top, mais elle est très très haut placée en effet, oui, dans mon cœur.
Dans ton top 200. Stéphane, c'est la dernière fois que tu peux en parler. Donc
Non, mais je vais laisser Maxime en dire. En fait, Maxime a fait un trait cet après-midi qui était vraiment très bien. Donc, je vous invite à retrouver...
Je l'ai pas lu.
Ah bon ?
Non ? Oui. j'ai liké tous tes trucs, là. Arrête, dis pas ça.
Non,
c'était intelligent, en plus. On aurait dû presque dire du King. Donc, c'était...
Ça faisait longtemps, je crois, que la fin d'une série ne m'avait pas laissé un peu sur le carreau. Je savais pas quoi en penser en fait en finissant l'épisode hier. Et ça faisait longtemps que j'avais pas réfléchi à un épisode pendant 24 heures avant de me dire ok, d'accord, c'était géant. Et ça fait du bien et en même temps ça fait beaucoup de peine de me dire que maintenant je vois pas trop quelle série peut prendre la relève sur
la Bréa.
Bien sûr.
Mais du coup, est-ce que c'est une bonne saison et une bonne fin ou c'est une très bonne fin et une saison moyenne par rapport au reste? Ça situe comment cette saison?
Non,
et cette fin?
Honnêtement, c'est une bonne saison. Je trouve que il est vachement malin avec cette histoire de mercredi de manifestation. De...
Le chaos dans les rues de Chicago.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça très malin parce que, en fait, la différence dans les bureaux et dehors, on l'oublie parfois. Et après, il y a un petit plan dehors et tu te dis « Ah oui, c'est vrai !» C'est vraiment le bordel en ce moment. Et j'ai trouvé ça super malin aussi.
C'est super dur de juger une saison de The Good Fight comme je sais pas, n'importe quelle série en vrai. Je trouve qu'ils se permettent tellement de choses et ils vont tellement loin dans leur propre... dans leur écriture et dans l'identité un peu king que... Je suis incapable de regarder ça comme je regarde, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux ou Quantum Leap ou d'autres. Enfin, il y a un truc vraiment très étrange là-dedans, un petit peu comme ce que peut me procurer Atlanta, où tu sais pas du tout ce que tu vas avoir d'un épisode à l'autre et à chaque fois ça fonctionne.
Mais il faut dire aussi que les saisons ont vraiment des ambiances et des tonalités vraiment très différentes les unes des autres. En fait, je suis même pas sûr que la série se juge par saison. Enfin, c'est très bizarre. Mais enfin, j'ai adoré l'écriture de cette saison qui est chaotique du début à la fin. Et en fait, elle correspond tellement à l'époque. Et encore une fois, c'était beau, quoi. Et je me suis senti vibrer avec Diane qui ne savait pas quoi s'attendre de ce chaque minute après la minute qui vient de s'écouler, quoi.
Et puis cette construction en compte à rebours. Sur la fin, ça faisait flipper, en fait. Ils arrivent par des petits trucs à nous faire penser que le pire va arriver. Et en fait, quand l'événement du compte à rebours arrive, tu pensais pas du tout à ça.
Alors, je veux pas... Enfin, bon, de toute façon, la vidéo existe déjà. Donc, la vidéo utilisée sur Trump, vous savez comment Robert King il l'a décrit ? Il dit que c'est Trump qui masturbe deux hommes. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il a utilisé ça dans toutes les interviews de post-mortem du final, ça m'a fait mourir de rire. Et voilà, en fait, je crois que ça résume bien ce que c'est la saison 6 de The Good Fight.
Bon, en tout cas, moi, je suis soulagée parce que je m'attendais... En fait, depuis le début de la saison, je pensais que Diane serait tuée d'ici la fin de la saison. Je ne sais pas pourquoi. Et...
En plus, elle l'avait dit, je crois, en début de.
Je crois qu'elle avait dit,
de
ouais.
De saison que ils avaient tué son personnage, elle aurait haussé le ton, elle leur aurait dit de ne pas le faire.
Elle l'aurait su dès le début de la saison s'ils avaient décidé de le faire, genre au final.
Je pense vraiment.
Je pense que les Kings ont suffisamment de respect vis-à-vis de leurs acteurs pour leur dire ça.
Vraie question, parce que moi, j'arrive pas à trancher. On est d'accord avec le choix qu'elle fait à la fin concernant son mec ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Moi, j'aurais dit non.
Parce que je trouve, franchement, quand ce que Carmen dit, je trouve ça très juste aussi, en fait. Donc, oui. Et c'est encore la preuve que son personnage est complexe et que, ouais, il y a... Kurt est toujours là.
C'est que pour le coup, le moment où elle dit « j'en peux plus » et les raisons qu'elle avance que...
Qui sont bonnes, hein ? Qui sont très bonnes,
Et je me disais... Enfin, je trouvais ça dommage, en fait, que limite, peut-être que ça aurait dû arriver un peu plus tôt, pour qu'on ait le temps de voir un peu quelle était sa vie sans Kurt et sans ce poids-là.
On l'a vu pendant 6 ou 7 épisodes avant. Hein.
Bah oui, ouais, c'est vrai qu'il est très peu là, c'est vrai.
Parce que j'aime beaucoup...
Vous savez pourquoi il n'est pas là, c'est parce qu'il est dans NCIS.
Mon Dieu.
Sérieux ? C'était parce qu'il était dans autre chose.
Il a repris le rôle de Gibbs. Oh là là, c'est jeune qui ne regarde pas NCIS.
Non mais moi je pense que c'était reculé pour mieux sauter, ça arrivera... On peut dire que ça arrivera plus tard, mais ce qu'elle a évoqué comme raison, c'est des raisons... réelles qui sont peut-être un peu nuancées là parce qu'elle est amoureuse de lui, mais ça reviendra à un moment ou à un autre.
Mais en fait, encore une fois, ça revient depuis 15 ans et ils ont toujours surmonté ça. Et là, pour le coup, je pense que Kurt a fait des changements dans sa vie et c'est peut-être ça va suffire en fait. Enfin, voilà, c'est comme moi je vois la chose. Non. Et je pense que Carmen a raison aussi.
En fait, ce qui est un peu dommage, enfin ce qui permet aussi qu'ils soient ensemble et que ça paraisse pas étrange, c'est que lui il est obligé de renoncer à quelque chose. C'est pas moi c'est un peu comme ça que j'ai vu son personnage. C'est peut-être mon seul point de déception, c'est que j'avais un peu l'impression que il le faisait un peu tout quitter pour avoir un happy ending avec Diane, alors que depuis le début il est quand même établi que chacun a ses positions, qu'ils y croient dur comme fer, qu'ils essayent de composer avec. Et là, j'avais un peu l'impression que c'était.
Ah, mais lui aussi, il avait ses doutes. Hein. Ils nous l'ont montré aussi de temps en temps. Bon, pas beaucoup dans cette saison, mais dans la saison précédente, il avait ses doutes vis-à-vis de ce que était le Parti républicain, quoi.
Oui. Et puis aussi, c'est pas. Enfin, Diane lui a rien demandé, quoi. C'est vraiment lui qui est un peu qui prend conscience des choses.
Oui, oui, non, mais ça, sur ça, on est d'accord. Mais c'est, je trouvais que c'était un peu abrupt, en fait, cette partie-là. Après, bon, franchement, je chie.
5 minutes sur l'épisode, ça va. Puis, de toute façon, on aura des nouvelles de Diane et Kurt dans le spin-off sur Marissa, donc on s'en fout.
J'aimerais bien, franchement.
Mais c'est, enfin, vu comment ça reste ouvert pour tous les personnages à la fin, je vois pas, je les vois forcément faire un nouveau spin-off.
Non, mais ça sera, pour moi, il n'y aura pas un spin-off tout de suite, en tout cas.
Peut-être pas tout de suite, mais ça reste... Enfin, je n'avais pas l'impression de voir vraiment une fin. Ça fermait le truc.
Il va arriver dans Evil, et puis c'est tout.
Ça serait bizarre, ça, par contre, mais oui.
Très bien, et ben voilà, on ferme la porte de The Good Fight, Stéphane et Maxime, désolé.
Non.
Mais... Et c'est le moment de rappeler aux gens d'aller écouter notre émission spéciale sur les Kings, sur Michel et Robert, et voilà.
Tu veux dire papa et maman?
Mais j'aime pas parce que les gens...
C'est horrible,
ils vont être...
ça bah, non, quoi. C'est horrible, faites
non,
pas ça.
Je troque mes parents sans aucun problème pour Michel et Robert.
Bon, allez, on passe en mode avis express sur Blockbuster qui est arrivé sur Netflix. Ce superstore version Vidéo Club a-t-il séduit, Maxime?
Je peux juste dire un truc avant, je voulais pas te couper. Oh. Je voulais juste dire que c'est quand même l'une des rares séries sur laquelle on est genre... grandement tous d'accord, sauf toi Tom vu que tu la regardes pas, mais en gros on est vraiment tous d'accord et on est unanime dans notre dans nos éloges quoi. Voilà.
Bah ouais. Si tu regardais Evil, tu te rejoindrais à nous et tu verrais
bah
que
je sais mais je peux pas regarder Evil.
Voilà, super.
Donc Maxime, t'as pas vu Blockbuster?
Si si. J'ai vu les 4 premiers épisodes, j'ai trouvé ça absolument chiant.
J'ai vu
désolé,
que les 2 premiers, je suis d'accord.
Ah, non, alors Tom,
le 5 est mieux.
Je me suis forcé à regarder le 5 pour toi et j'ai trouvé que c'était encore pire que les autres. Oui. Ben, on parle pas du Blockbuster, on parle pas du travail, bon. On nous parle de Tinder. Merci, s'il te plaît. Quoi.
Oui, alors ça, on est d'accord. Si on enlève le Vidéo Club, ça pourrait être n'importe quelle autre série, c'est vrai. Non, je trouve que ça marche un peu mieux parce que c'est ce que je sais que j'avais lu dans un tweet de je ne sais plus qui disait que les punchlines étaient beaucoup trop longues au tout début, que ça fonctionnait pas du tout. Et c'est vrai que je trouve à partir du 5, 6, 7, c'est beaucoup plus...
Il y a que 10 épisodes,
c'est beaucoup plus court.
On se calme.
Ben oui, et alors j'ai le droit de dire que c'est bien.
Non, mais c'est pas possible de...
Laissez-le parler, monsieur, laissez-le parler.
Il attend 8 épisodes avant que ça commence à devenir bon, ça fait un peu long.
Ben ouais, merci,
Mélanie. Comme toutes les séries actuelles, mais bon, après...
Ouais.
Ok, donc si vous me ressortez cet argument cette saison, je vous dirai jurisprudence Blockbuster.
Là, t'as dit 8, là, t'as pas dit 5, t'as dit à partir du... après le 7. Donc, on est déjà au 8e, quand même.
Non, j'ai dit 5, 6, 7. La théorie de l'épisode 6 se tient dès l'épisode 5. 5,
en 5
plus,
6.
La théorie de l'épisode 6 se tient à l'épisode 6.
Les personnages existent un tout petit peu mieux à partir de la milieu de saison, mais c'est vrai que c'est pas... On a un peu de mal un peu à rire déjà et puis à avoir un peu d'empathie envers les personnages parce que ils sont pas,
c'est pas agréable, hein.
Très bien, bah ouais,
mais c'est dommage en fait parce qu'en fait ils ont du potentiel,
oui,
hein.
Bah,
même ils ont tous du potentiel, ouais. Même la fille qui sert à rien a du potentiel.
Laquelle?
Celle qui veut le virer.
Laquelle? Parce que
bah non elle est un peu fun, c'est pour le côté générationnel. L'autre là,
la
l'autre qui sert à rien,
l'ingénue là,
elle est blonde, oui c'est ça, l'ingénue.
Ah oui, pardon, à un moment donné vous virez tout le monde, donc ça aide pas ce que je viens de dire.
Bah tu vois, c'est dans l'épisode 5 je crois que elle parle avec le petit Tarantino là,
ouais.
Où là ça marche un peu mieux quoi, tu vois, c'est parce que il y a des relations qui se mettent en place.
Tom, je crois que c'est toi qui l'as dit sur Twitter que ça ressemble, en fait c'était Superstore mais en plus fade ou en plus tiède quoi. Et vraiment moi c'est l'impression que ça m'a donné, mais ne serait-ce que, enfin vraiment dans tout, dans la dynamique comique, dans les personnages, dans le lieu, enfin vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est Superstore. Ils ont juste changé les étiquettes sur les portes, quoi. Enfin, c'est...
Et faut pas oublier que Superstore n'était pas non plus drôle au début.
Oui, mais
tu sentais que les personnages, même dans la caricature,
le premier,
les stéréotypes étaient réussis.
Il y avait une identité dès le début. Enfin, moi, j'avais accroché des pilotes. Là, c'est plat, je sais pas. J'ai regardé le premier, le deuxième. J'ai fait une micro-sieste, quoi.
Et tu vois... C'est, Tom, tu parlais aussi de l'une des clientes qui t'a fait rire.
Oui, je l'ai pas vu.
Bah, tu vois, dans Super... Moi, je l'ai vu aussi, mais elle m'a pas forcément fait rire. Mais tu vois, dans Superstore, il y en avait très, très régulièrement,
c'est ça,
et c'était toujours drôle. Et là, il y a personne.
Ça, ouais.
Les clients, il n'y a personne.
Il y a cette cliente-là, ouais, donc qui revient, ouais. Qui est trois fois, qui demande à chaque fois de chercher un film et personne ne lui répond et elle s'en va en reculant. Et je trouve ça très, très drôle, en fait. C'est purement visuel. Je ne sais pas qui c'est peut-être la meuf de la lumière de la série, j'en sais rien. Mais enfin, je trouve ça très drôle. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas misé là-dessus. Alors que Superstore misait un peu dans le rythme aussi sur les clients. Mais ils n'utilisent pas du tout le vidéoclub, c'est vrai que...
Non, mais ils n'utilisent même pas les références au cinéma comme il faut, quoi. Enfin,
je suis d'accord.
C'est triste, quoi.
Il n'y a que le pote, je trouve...
Lequel pote?
Le père, celui qui a toujours son chapeau, qui, je trouve, a au moins un personnage un peu... Celui qui a un personnage qui ressemble à quelque chose, quoi.
Mais puis, moi, le personnage de Mélissa Fumé-Rouge...
C'est le même, c'est la même.
Ouais, et... flemme.
Oui, je suis d'accord, mais c'est vraiment la même.
C'est Amy de Superstore, quoi. Pas drôle.
En fait, ça acteurs...
Ah non, c'est son personnage de Brooklyn Nine-Nine, je trouve, c'est exactement la même.
Non, mais même les acteurs qui sont censés être bons, en fait, ils sont tristes là-dedans, quoi. Enfin,
non, mais après, c'est normal qu'une workplace comédie mette du temps à s'installer. Là, en plus, une saison de 10 épisodes, c'est très peu.
Oui, c'est ça aussi.
Disons c'est renouvelé, je pense que voilà.
Non, mais tu penses que ça va être renouvelé. Il n'y avait personne qui en a parlé. Tout le monde a oublié Blockbuster dès la sortie, quoi. Enfin, c'est triste.
Oui, mais Netflix, c'est un truc intra-Netflix avec franchement des grosses têtes d'affiche. Je pense qu'il y aura peut-être une saison 2 juste pour tâter le terrain.
Comme pour Space Force.
J'espère qu'elle va chanter. La vieille.
La vieille.
Elle, c'est une chanteuse. J'espère qu'elle va chanter.
Elle danse déjà. Elle danse dans un épisode en plus. Et elle chante, je crois, un petit peu dans le 8 ou le 9, je crois. Donc.
Ah bon?
Ouais.
Je regardais peut-être juste celui-ci. Là,
c'est peut-être elle aussi qui est un peu plus drôle aussi.
Elle est un peu drôle, moi je suis d'accord. Ouais. Hein. Elle a des bonnes punchlines.
Mais c'est vrai, ça manque un peu d'humour. Et non, mais. Il y a du beau monde derrière, donc je pense que sur la durée, ça aurait pu marcher.
On sait d'où ils viennent, s'ils ont écrit sur Superstore ou du The Office ou une workplace comédie ou pas.
Bah oui, il y avait quand même Vanessa Ramos, quoi.
Bah oui, mais là,
ils ont écrit pour Brooklyn Nine-Nine, Superstore et Happy Endings.
Ouais, ça se sent pas. Ok, d'accord.
Alors, de toute façon, Randall Park, il est pas bon dedans, je suis désolée.
Mais c'est ce que je disais, tous les acteurs sont mauvais, et c'est parce qu'ils ont un matériel de merde, voilà. On va pas épiloguer non plus 35 ans.
Oui, c'est un avis express. T'as raison, oh là là.
Allez, zou. Next.
Avis express ou pas, Maxime, sur la Servante Écarlate qui a terminé sa saison. On a déjà parlé, mais est-ce que t'as un avis plus positif?
Positif. Pas vraiment. Le reste de la saison était à l'image du début, c'est-à-dire divertissant, mais ça n'a plus ni queue ni tête.
Ah, j'ai lu de bons retours pourtant sur cette fin de saison. Très prenant.
Ah bon
paraît.
Moi, je trouve que ils sont revenus au début là. Ils n'ont plus aucune inspiration. Ils nous ont fait un retour au pilote.
Oui, c'est vrai que par contre, le manque d'inspiration se ressent fortement.
Flagrant.
Ouais, c'est le cas depuis longtemps, quand même.
Oui, mais c'est que là, même d'épisode en épisode, il rejoue un peu le même gimmick. C'est-à-dire, Gilead est à 20 mètres de chez June, qui habite au Canada. Enfin, la facilité dont il passe d'un pays à l'autre, alors que les deux pays sont en guerre.
C'est pas que moi.
Ah oui, non, mais moi j'ai trouvé ça, je trouvais que ça rendait le tout vraiment ridicule.
C'est invraisemblable.
Vraiment, ils traversent les frontières comme si, espace Schengen.
Comme
quoi.
Si tu prends le RER pour aller de Vincennes à Paris, quoi.
C'est exactement ça.
Tranquille.
Mais la prochaine saison, c'est la dernière, hein, c'est ça?
Oui.
C'est bien,
c'est justement pour faire aplatir un peu tout et refaire comme en saison 1.
Non, parce que en fait, ils vont même ailleurs. Enfin, c'est
là, ça va être un autre endroit.
Ouais, ce sera ni le Canada ni Gilead, ce sera ailleurs. Enfin, non, c'est chiant.
Bon, pas très bien.
C'est bien que ce soit la dernière saison. Faut en finir quand il n'y a plus d'inspiration comme ça vaut plus le coup, quoi.
Très bien. Périphérique, les mondes de Flynn, une adaptation du roman du même titre de William Gibson, publié en 2014 avec Chloé Moretz.
Grace.
Chloé Grace Moretz.
Non, elle a enlevé, elle s'appelle plus Chloé Grace Moretz, je crois.
Non, je suis triste.
Mais tu t'excuses envers Tom.
Je m'excuse, Tom.
Non, autant pour moi, elle a peut-être gardé. Attends.
Je me désexcuse, Tom.
Bon, en même temps, on s'en fout.
On s'en fout.
Est-ce qu'on s'en fout aussi de la série?
Oui.
Moi, je pensais que c'était un film.
J'en ai regardé 4 sur 5.
Ah oui, il n'y en a que 5 en plus.
Non, pour le moment, c'est pas fini. Ah. Moi, j'ai regardé les 5 et j'étais agréablement surprise par le visuel, c'est tout ce que j'ai à dire. Autant la photo est trop moche, on dirait. Alors, je déteste les filtres Instagram et il n'y a que ça dans la série. En revanche, les effets un peu futuristes de 2100, là, ils sont vraiment bien faits, je trouve. Voilà.
J'ai beaucoup aimé la scène dans le cimetière où ils expliquent les catastrophes qui se sont passées pour le monde avec les trucs dans le ciel.
Les cubes, là, ouais.
Pour le coup, je suis d'accord avec Aki. C'est très joli à regarder, mais alors qu'est-ce que c'est chiant. J'ai toujours rien pipé au bout du quatrième épisode. Et pourtant, on passe des moments à t'expliquer des. Il y a des tunnels d'explication. Je comprends.
C'est gênant, d'ailleurs.
J'ai toujours pas compris qui a volé quoi et qu'est-ce qu'elle a fait à Elita et pour mériter tout ça, quoi. Enfin, j'ai vraiment rien compris.
Elle a rien volé, visiblement, et c'est Elita qui a tout gardé ce qu'elle a volé. Mais j'ai toujours pas compris ce qu'elle a volé non plus.
Non, mais je sais pas. En fait, ben voilà.
Enfin, moi, à un moment, il va falloir enlever les rênes des séries de.
C'est pas eux. Nolan hein. Ils sont que producteurs en plus.
Même pas prod, ils sont executive producer, je crois.
Faut qu'ils s'en aillent parce que j'ai le syndrome Westworld où, comme toi.
Stéphane.
Je voyais Diane. Je vois Diane sur le truc, j'étais perturbé. Comme Westworld, je bite rien. Vraiment, j'ai dû voir le premier épisode 2 fois.
Ah oui.
Pour comprendre qui était qui dans les, enfin, pour comprendre ce qui se passait. Mais même en relançant le deuxième épisode, je me suis dit, mais même là, j'ai besoin d'un récap, quoi. Et non, vraiment, c'est.
Il y a trop de temporalité. Enfin, il y a trop de personnages. Il y a les flashbacks des gens qui sont dans le passé, qui sont aussi dans le futur, qui vivent en même temps. S'il te plaît, quoi.
C'est le même syndrome, vraiment. C'est de la.
Attention.
C'est de la complexification pour complexifier les choses complexes, mais en fait, tu comprends même pas le principe de base. Donc, moi, j'arrive pas à m'attacher ni au personnage, ni à l'univers, ni à l'histoire. Je trouve ça juste chiant.
D'accord.
Mais les acteurs sont bons.
Voilà, j'allais le dire. D'ailleurs, même si je trouve que les acteurs s'en sortent pas mal. Surtout le Wilf, là. Enfin, je l'aime bien. Je le connaissais pas avant, je crois, et je l'aime bien.
Ah si, attends, c'est celui qui a une bonne tête, là.
Non, c'est pas Burton. Non.
Ah non, lui, on s'en fout de lui, c'est pas joué. Enfin,
par contre, j'adore Tanya Miller, elle fait une très bonne méchante. Alors, je sais toujours pas pourquoi elle est méchante, mais j'aime beaucoup. Voilà.
Oui. Est-ce que ça tenait pas juste sur un film?
Peut-être.
Ah, mais complètement, en fait. Sauf qu'on aurait peut-être encore moins compris. Quoi que vous me direz, il y aurait eu moins de longueur sur les. La fille qui essaie de comprendre ce qui se passe et tout. Donc, oui, ça aurait pu tenir sur un film.
C'est quoi, à la base? C'est une série de romans, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est une trilogie de cyberpunk.
Cyberpunk, franchement, ouais. J'aurais pas dit ça. Hein.
Parce que là, je vois durer des épisodes entre 58 et 73 minutes.
Alors, il y a des épisodes de 1h05, alors merci.
Le premier est long.
Chloé Moretz joue mieux que d'habitude ou pas?
Non, la même chose, mais ça correspond au personnage.
Donc mal.
Mais ça correspond au personnage.
Oh, vous êtes cruel. Oh.
Vas-y, cite-moi un truc où elle a bien joué, quoi.
The Peripheral.
Non, mais...
Kick-Ass.
Ah oui, Kick-Ass,
c'est vrai.
Très bien. Donc,
si on peut dire aussi 500 Days of Summer.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Oui, oui, Maxime.
Quand on la découvrait. Voilà, bye.
Donc c'est sur Prime Video. White Lotus saison 2 qui vient de commencer, c'était la surprise de la saison dernière. Ça revient maintenant direction la Sicile. Qu'est-ce que ça vaut pour l'instant?
Comment est Aubrey Plaza, dites-moi?
Il faut que tu le regardes, à qui?
J'ai pas encore regardé, j'attends que ça
se finisse. Elle est géniale.
Mais tu vas être encore plus amoureuse d'elle qu'avant. Hein.
Oula.
Il faut regarder la série pour le générique déjà. Vraiment, c'est
bravo, Maxime.
Une minute 30 de pur bonheur, j'écoute la musique tous les jours au moins 15 fois.
Et Théo James est à poil ou pas?
Ah oui, mais pas lui. Mais tous les mecs sont des statues grecques qui sont à poil tout le temps. Voilà.
Oui, d'ailleurs, si vous venez pour Théo James, vous resterez pour l'autre.
Ah, le pote?
Oui. Celui qui joue le mari d'Aubrey Plaza.
Ah ouais?
Il est encore mieux foutu que Théo James, c'est impressionnant. Ils me foutent des complexes, ces mecs-là.
Il s'appelle comment? Attends, je vais regarder.
Attends, on dirait qu'il a 16 ans, quoi.
Bah ouais, moi aussi, dans la bande-annonce, j'avais l'impression qu'il avait 16 ans.
Ouais, tu l'as pas vu tout nu, parce qu'il fait pas 16 ans tout nu.
Il s'appelle comment?
Ethan,
je vais regarder. Okay.
Non, mais sinon, le début de saison est plutôt vraiment bien.
Oui, parlons de ça un peu.
Oui. Ouais. Mais oui, enfin, moi, j'aime beaucoup. Je pense même que pour le moment, je préfère la première. Je préfère le casting, je préfère l'histoire, je comprends mieux ce que veut dire la série. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus installé dans l'univers anthologique de cette série et que du coup, pour le moment, ça fonctionne quand même.
Et c'est centrique Coolidge ou pas du tout?
Non,
au contraire. C'est très bien même.
Ouais.
les personnages sont moins détestables que par rapport au premier casting. Parce que la première saison, perso, moi, il m'avait revu que c'est... Genre, je pouvais plus les voir, tout ce que je voulais, c'était que ça se finisse.
Il le montre bien avec justement Aubrey Plaza et l'autre là qui jouait dans The Bold Type.
Megan Fox. Oui.
Voilà. Voilà.
Oh, elle est mignonne, elle.
Ouais.
Je trouve que les deux personnages qu'on regarde un peu en miroir avec leurs défauts, leurs qualités, leurs préjugés, etc., elles fonctionnent bien ensemble.
Oui, et d'ailleurs, dans l'épisode 3, c'était très bien. Voilà. Le duo fonctionne encore mieux. Ouais.
Elles ont des scènes ensemble, bonne nouvelle.
Ah, ouais, c'est que ça, le troisième épisode.
Très bien. Ah. Mais j'attends quand même la fin, de toute façon, je ne regarderai pas avant. Voilà.
On passe à Young Royals. Sur Netflix. C'était un peu la chouchoute de Stéphane et de certains autres l'année dernière. Qu'est-ce que ça vaut cette saison 2? Personne n'en parle.
Oh, un peu quand même.
Non, si.
Non, personne
dans
n'en
le
parle.
Milieu.
J'ai raison.
Maxime, tu trouves ça comment? Moi, je trouve qu'on en parle.
Au milieu, peut-être, mais sur les côtés, personne n'en parle.
Non, quand même, la hype est un peu redescendue par rapport à la première saison. Mais à raison. À raison, moi, j'ai pas aimé cette seconde saison.
Bah, trop niais, quoi. Je t'aime moi non plus, je te suis, tu me suis, quoi.
Et en termes de scénario, il y a que dalle. Enfin, vraiment, c'est une histoire sur les 8 épisodes.
6.
Ah ouais, bah voilà. C'est qu'une seule histoire. Je trouve que les personnages, ils sont pas assez développés. Ils sont un peu unilatéraux.
Il y a beaucoup de redites, ouais.
Ouais, et du coup, à chaque fois, je lançais l'épisode, j'étais là... Ah, j'ai envie de faire la vaisselle en même temps, quoi.
La seule qui s'en sort, c'est la sœur, non?
Ouais, Sarah.
Même pas.
Non, c'est Auguste qui s'en sort le mieux, comme d'hab, mais sauf que c'est le personnage le plus détestable qu'on peut regarder dans une série, quoi.
Bah, puis en plus, c'est un peu vu et revu par rapport aux autres séries un peu teen, je trouve. Enfin, il n'y a pas grand-chose de neuf.
Non.
Bah oui, mais c'est ça qui faisait un peu son charme au début. C'était le côté je regarde une série des années 2000, quoi.
Oui, c'est vrai.
Mais on est si vieux.
Non, mais le problème, c'est que, en fait, cette saison 2 forme un tout avec la saison 1. Le problème, c'est que ça aurait pu être qu'une seule saison, ces deux saisons. Ça a été découpé, mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ça commence à la fin de la saison 2, quoi. La saison 2, la fin de la saison 2.
Jurisprudence, blockbuster.
Non, c'est pas vrai. C'est que ça promet des choses qui sont bien plus intéressantes pour la suite. Voilà.
D'accord.
Non, moi, je suis d'accord avec Tom. On est quasi sur de la jurisprudence, mais ça, c'est Netflix, en fait.
Oui.
C'est à force de vouloir faire du contenu qui plaît à telle typologie de public, ils en viennent à faire que des séries qui sont fades. Et...
Oh, il ne faut pas exagérer non plus.
Tu étais le premier non-défenseur de Netflix, Stéphane.
Oui, non, mais il ne peut pas dire que Young Royals est le fade, quoi.
Ben, la saison 2, je suis désolé, elle est fade.
Voilà.
Bon.
Mais elle se regarde tellement vite, en fait, que c'est un peu fadeur.
Mais c'est ça y participe, en fait, le fait qu'en 6 épisodes, c'est-à-dire en 2 heures qu'à tout péter, en 3 heures de binge d'une série où tu fais la vaisselle pendant.
Ouais.
Une vaisselle de 3 heures.
Oui.
Et le ménage, voilà.
Mais je m'attache plus aux personnages, en fait, quand je regarde Netflix. C'est rare qu'il y a quelques séries, mais c'est de plus en plus rare. Et je trouve que c'est à la fois sur les drames et sur les comédies. J'ai plus envie d'y retourner, en fait.
Dis le mec qui va retourner voir les saisons de The Crown.
Mais bien sûr, mais... Et...
Oh.
Ça, vous m'attaquez, monsieur.
Vous regardez pas Love is Blind, hein, sinon tu t'attaches aux personnages.
Allez,
hein.
Voilà celle-là.
The Dragon Prince, saison 4 sur Netflix, Stéphane.
Ben voilà, Maxime, il va dire « Ah, mais je m'attends un peu au personnage », mais il revient. Je suis un peu plus tempéré sur cette saison 4 parce qu'en fait, il y a eu un saut dans le temps. Donc, on savait que c'était une histoire différente. Sauf que je m'attendais à avoir de nouveaux personnages. Mais non, mais ils reprennent les mêmes personnages juste 2 ans plus tard. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le bain. Il m'a fallu le premier arc, les trois premiers épisodes. Mais après, c'était toujours aussi sympathique à suivre, quoi.
Je suis d'accord.
Voilà.
Très bien. Tiens, Mélanie, parle-nous d'Acapulco.
Oh, mais...
Bah.
Je vais frapper. Je vais fumer. Tu m'as dit non pour Acapulco, quoi.
Bah tiens, vas-y. Allez.
OK.
Appelle TV.
C'est vrai que j'ai pas besoin de me préparer, moi, en général. Hein. Prends-moi comme ça, roule pour point, ça va être génial.
Non, mais si tu veux, on peut l'enlever. Hein.
Mais non, je voulais
en
parler.
On
n'en
parlera plus jamais.
Mais si, elle est bien en plus comme série. Personne ne la regarde, j'ai l'impression d'être toute seule.
Moi, j'avoue, j'ai regardé la première saison, mais j'ai pas encore regardé la deuxième.
Mais moi, j'ai vraiment pas aimé le premier.
C'est sympa. franchement, l'histoire, je m'attendais à complètement autre chose, vu que je ne regarde toujours pas les bandes annonces. Et,
Stéphane 2, tiens.
J'aime garder la surprise, bref. Et donc, en fait, c'est un jeune homme qui raconte son histoire à son neveu, qui raconte comment s'est passée sa jeunesse avec la mère du gamin, avec sa sœur, avec sa mère, comment il a bâti son empire, parce qu'il est devenu multimilliardaire. Et donc, voilà, il raconte son chemin de son adolescence à maintenant. Et ça démarre dans un grand hôtel qui s'appelle Acapulco. Et c'est tout en couleur, c'est sympa, c'est doux, c'est gentil. Et ça, c'est un peu dans le même esprit que... je vais peut-être exagérer un peu, mais dans le même esprit que Trying. Mais c'est sympa à regarder, quoi. C'est une série Apple, c'est sympa à regarder. C'est dans le... C'est, ça se regarde avec plaisir, quoi. On n'en a pas tant que ça. Donc,
Non, là, en tu... Fait... Moi, j'ai un cœur de révolutionnaire. Là, j'ai trouvé ça trop capitaliste à mon goût. Donc...
T'as vu la première saison ?
Non, mais...
Mélanie et Mélon
Musk, tu vois pas, ça.
Non, calmons-nous. C'est pas non plus capitaliste, c'est ça... Au contraire, c'est genre American Dream en mode voilà, le petit gamin.
Il démarre de rien et voilà, après il se sait lui-même. Quoi.
Bah, c'est le problème des États-Unis, du American Dream, mais bon voilà.
Mais c'est pas un problème si lui il est content comme ça, voilà.
Oui, mais il est pas obligé de venir nous le raconter dans une série là.
Super. aucune ambition, Stéphane.
Attends, t'as vu toute la première saison et t'as pas aimé du tout ?
Non, j'ai pas tout vu et non, je me suis farci 3 ou 4 épisodes, ça m'a suffi.
En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, je pensais que ça allait être une telenovela, et en fait, ça n'allait pas tant que ça. Voilà.
Mais ça reste comédie, c'est pas un gros drame.
Oui, c'est très léger. C'est très léger. Et j'aime beaucoup Eugenio Derbez, en fait. Je trouve qu'on le connaît, on le sous-estime, alors que je trouve qu'il est très bon. Voilà.
Bah déjà, personne
l'estime. On le voit souvent en personnage secondaire. Mais non, arrête ! On le voit souvent en personnage secondaire, et en fait, on le voit passer dans plein de séries sans se rendre compte de son potentiel, quoi.
Bah oui, mais déjà qu'on a du mal à se souvenir des personnages principaux, donc alors les secondaires...
Regarde Andorra, il était très bien.
Ah ouais, non, mais si tu m'enfonces aussi, je vais jamais réussir à la défendre, la série.
Non, je plaisante. Mais on a tous adoré Dora, hein, tu sais, pour Dora.
Ah ouais ?
C'est vrai.
Premier. Oui, on a beaucoup aimé.
Mais vous êtes pas sérieux ?
Dora ?
Non, le film est...
Oui, mais je sais, ma fille y a traîné.
Dora l'exploratrice.
Oui. Le film est exceptionnel.
Mais vous êtes bourré quand vous l'avez vu, c'est pas possible.
Absolument. Et on l'a même pas vu ensemble, en plus.
Non, pas du tout, mais on en a parlé. Bah, on a tous les trois aimé. Voilà. Et bourré, on le fera ça une fois. Voilà.
Oh, mais si, c'était très sympa.
Mais oui.
Ok, on va passer là-dessus.
Bastard Son et c'est quoi ? Devil Himself sur Netflix.
Oui.
Joe Barton revient après The Lazarus Project. Ouais. Dont on parlera un jour, sûrement.
Ah ben, j'espère.
Alors, c'est basé sur un roman de Sally Green.
Oui, voilà. Bad Wolf. Non, Alf. Bad en plus.
Alf Bad.
Bon, qu'est-ce que c'est alors ?
C'est une série de fantasy avec des sorciers et c'était vraiment très sympathique.
C'est une niaiserie.
Non, alors c'est pas du tout niaise, c'est même trop violent pour moi, ok ?
Et c'est là où j'ai été surpris parce que je m'attendais donc à un produit traîné façon Netflix et en fait pas du tout. C'est plutôt malin et il y a un discours queer qui est quand même plutôt
légèrement
amené et bien fait. Et en fait, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis laissé prendre au jeu et Joe Barton, il a encore fait des miracles sur moi, quoi. Après,
personne n'en parle à la série, c'est bizarre. Je suis passé un peu inaperçu. Hein.
C'est vrai.
Ben, en fait, je suis tombé dessus complètement par hasard, quoi, parce que la promo sur Netflix, que dalle, quoi.
C'est quand même très, très anglais, hein.
Oui.
Et c'est pour ça que ça marche bien, je pense.
Ah, donc ils sont moches, c'est ça ?
Alors oui, sauf le français, donc qui est belge, visiblement.
Oui.
Mais, non, plus sérieusement, c'est plutôt bien écrit, les acteurs sont pas mauvais, et ça se veut noir et slash méchant, et je trouve que ça irait si bien, quoi.
Oui. C'est vrai.
D'accord.
Et d'ailleurs, ça m'a donné presque envie de lire la suite.
Le livre ? Ouais, pas moi.
Si on n'a pas de suite, je crois que je me lirai les livres. Même si, a priori, il a fait beaucoup de changements quand même. Donc,
Et surtout, je pense qu'il y aura une suite. Franchement, la série a l'air de coûter 2 copecs. Voilà.
Ça fait cheap ou c'est...
Bah oui, ça fait anglais.
Non, ça fait pas cheap, elle exagère.
Ça fait cheap.
Non, les effets spéciaux sont plutôt pas mal faits, surtout quand les gens ils explosent et qu'ils s'affoutent du sang partout. Là,
ouais, c'est quoi. Ça, c'est trop violent pour moi. Voilà.
Maxime, t'as 2 minutes pour Inside Man sur Netflix.
Oui, alors apparemment, je suis tout seul sur cette série, donc moi, en tout cas, j'ai bien aimé. C'est sur Netflix, pour changer, pour pas contredire ce que
c'est
je viens
pas
de dire.
Du Netflix en plus.
Mais c'est pas du Netflix, oui. Et c'est avec David Tennant, Stanley Tucci et je ne sais pas comment elle s'appelle.
Dolly.
C'est l'actrice de
Dolly Wells.
C'est qui Dolly Wells?
Celle qui joue dans Years and Years.
Lydia West, alors.
Oui, ah, Lydia West.
Oh bah voilà. Oui, c'est que
ah,
l'univers
bah oui,
de.
Rien à voir, ouais, quoi. Okay.
Ouais. Et c'est très étrange. C'est l'histoire d'une séquestration d'une féministe qui a tout compris à comment coincer mon meurtrier avant qu'il me tue. Et en même temps, oui. Non mais et en vrai, je pense que je la pitch plutôt bien. Et en parallèle, c'est Stanley Tucci sur dans le couloir de la mort qui va aider Lydia West, donc, qui joue une journaliste, à retrouver son amie qui est celle qui est dans la cave de David Tennant.
Oh putain, ça ressemble tellement à du Stephen Moffat.
Ça fait glauque.
C'est glauque, mais en même temps, c'est assez jouissif à regarder. Je trouve que les rapports entre les personnages sont plutôt bien faits. L'intrigue, c'est du what the fuck total, hein. Tu comprends pas comment ça tient, mais moi j'ai vraiment aimé regarder ces 4 épisodes, donc ça a le mérite d'aller vite. Ça fait un peu long film, hein, pour
t'en
être honnête.
On peut pas dire que ça commence à l'épisode 5 du coup.
Non. Voilà. J'ai bien aimé, mais c'est pas vraiment une série, c'est vraiment, on est sur du film un peu étendu où en 2 heures ça aurait pu fonctionner aussi. Donc,
et est-ce qu'on voit que c'est écrit par du Moffat ou pas?
Non, c'est ça qui est très étrange, c'est que j'avais pas prêté attention au générique ou à la fiche technique de la série, et j'ai vu que c'était du Moffat qu'à partir du 3e épisode, parce que j'ai vu son nom s'inscrire et parce que je prêtais attention au générique.
Donc ça reste divertissant, quoi.
Tu t'es pas dit que c'était, tiens, je suis en train de trahir en quoi je crois le plus profondément de moi et je devrais arrêter cette horreur.
Jamais dans l'exagération, quoi.
Stéphane, moi je te rappelle que ma saison...
Non, ne le dis pas.
Ma saison préférée
non,
de Doctor Who a été écrite par Stephen Moffat.
Quel scandale, putain.
Quel scandale, je sais pas.
Bon, Devil's Hour sur Prime, Maxime. Ouais, rachète-toi.
Il y a encore que moi. Ben, un autre docteur, Peter Capaldi, qui joue un serial killer.
Oh, super.
Oui, en fait, ils sont tous, tu vois, ce que je joue Matt Smith dans House of the Dragon, ce que joue Peter Capaldi dans The Devil's Hour et David Tennant dans Inside Man. Tu te dis que jouer Doctor Who, ça a des problèmes sur la santé mentale. Mais, et c'est encore une fois très étrange, mais pas pareil que Inside Man. C'est juste que là, en fait, c'est l'histoire de Jessica Raines. Je me souviens plus comment s'appelle son personnage.
Lucy.
Voilà. Dont le fils est, au début, on pense autiste et va se rendre compte que elle se souvient de choses dont elle ne sait pas d'où ça vient.
Quoi?
Et en parallèle, ouais, non, mais en vrai, c'est deux séries ultra chelou. Hein. Et en parallèle, on suit une enquête policière. On se rend compte que il traque en fait un serial killer qui est Peter Capaldi, mais on le sait pas au tout début. Donc spoiler, mais pas vraiment. Et au fur et à mesure que la série avance, en fait, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'un peu plus paranormal que tu pensais au début, et la série se transforme d'un récit un peu policier, un thriller, en un truc fantastique. Mmh. Et la fin de la saison, déjà, implique nécessairement une saison 2, sinon je pète un scandale chez Prime, mais bon, je pense qu'ils s'en foutent. Mais voilà, la fin de le cliff de fin de saison te donne vraiment très très envie de revenir.
Juste un petit mot sur le départ d'Hélène Pompeo sur Grey's Anatomy.
Ah, c'est officiel alors?
Non,
en tant que cast,
ça sera acté en 2023.
Elle sera toujours récurrente.
Non, elle est plus récurrente. Elle devient guest. Elle devient guest en fait.
Clairement, ouais.
Ah putain, c'est ouf, je pensais pas que ça allait arriver, donc c'est vrai.
Bah ouais, c'est même pas... Enfin, je pensais que ça allait être... A priori, c'était déjà acté depuis le début de saison.
Oui, on l'a su pendant l'été, oui. Ouais.
Mais c'est parce qu'elle va sur une autre série.
Elle est moins présente, mais pas...
Non,
mais non, c'est qu'elle en a marre.
Oui, mais parce qu'elle a un autre plan.
Voix,
mais si son plan, il coule, on la verra sûrement revenir à la prochaine saison.
Non, mais je pense qu'elle a besoin de vacances, surtout. Ça fait 20 ans qu'elle joue le même rôle. Elle a peut-être envie de dire « Bon, bah ça suffit, je m'appelle pas Meredith, quoi. »
Ah, c'est elle qui a dit que tant que ça continuera, je continuerai avec la série. Hein.
Bon. Maxime, tu en penses quoi?
Du départ ou de Grey's Anatomy?
Pas Grey's Anatomy. L'écriture de... Pardon, Tom, je me fais... je te pique ton rôle, mais de l'écriture de la sortie de Meredith.
Eh bien, moi, j'aime beaucoup... Mais en fait, je trouve que c'est bien fait. Le seul truc où je trouve qui est un peu dommage, c'est la raison, en fait.
Ah, ben voilà, on est d'accord.
Okay. Pour l'amour, non?
Non, non, du tout.
Quoi? Mais ils sont ensemble, bien sûr.
Oui. Pour sa gamine et pour un projet professionnel en soi. Mais c'est des choses qui, en fait, ont déjà été évoquées la saison dernière et qui ont été évoquées la saison d'avant. Enfin, je trouve que c'est pas très neuf, en fait, pour faire partir le personnage. Mais par contre, la manière dont c'est fait, un peu en douceur et sans vraiment...
Je trouve ça très élitiste, moi.
Très quoi?
Élitiste.
Pourquoi?
Je sais pas. La raison est très mauvaise. En fait, ils auraient pu choisir un truc quand même un peu plus lambda. Ah, non, mon enfant, il est HPI. Super.
C'est la raison, c'est parce que Jolet est HPI.
Mais oui, mais voilà.
J'en peux plus de cette mode des HPI. Mais là, voilà. Je suis désolée.
Et donc, en fait, il faut mieux la traiter que les autres. Donc, on va la mettre dans une super école avec des super gens.
C'est pas mieux la traiter, c'est parce qu'elle n'était pas, elle pouvait pas exploiter son potentiel dans l'école, enfin dans le collège où elle était.
Vous savez que la
fille de Jean-Jacques Goldman est psy d'ailleurs, et elle a sorti beaucoup de sujets sur les HPI. Okay, voilà, juste que vous le sachiez.
TF1 aussi a sorti beaucoup de sujets sur les HPI.
Ah, c'est Sabine, elle doit participer à ces émissions, voilà.
Je crois qu'il y a une série aussi.
Non, mais il s'appelle la série. Putain, elle reconnaît même pas les blagues.
Ah,
mais
j'avais pas compris, désolé.
Non, si on peut plus
elle
faire de blagues.
Elle était consultante, j'en sais rien.
Non, mais si on peut plus faire de Black Series Phil dans un podcast sur les séries, mais où va le monde, quoi?
Bon, on sait où va le monde, malheureusement. Maxime, on termine par un coup de gueule.
Oui, pour une fois, j'en ai un. En fait, c'est pas un coup de gueule. Surprise. Non, c'est pas une surprise, je veux dire. Ryan Murphy, vraiment, faut l'enterrer.
Ah. What? Violent.
Ah, j'ai regardé. Ah, mais c'est pas plus violent que ce qu'il fait dans le début de saison 11 de American Horror Story, qui je trouve est une insulte. C'est une insulte à la communauté homosexuelle. Ah, c'est une insulte à tout ce qu'il a pu faire.
Mais toujours attaché au projet ou il a mis son nom et
je ne sais pas. Mais c'est vraiment. J'ai regardé les deux premiers épisodes, trois. Je sais plus. Non, je crois que je me suis arrêté à un moment.
Ressenti trois.
Déjà, j'ai commencé les 5 premières minutes, j'ai arrêté l'épisode tellement c'est mal écrit. Pour le moment, c'était que ça, juste mal écrit. J'ai écrit à Stéphane, je me souviens, en lui disant que c'était pas possible. Mmh. J'ai repris pour me dire, bon, je vais vraiment détester et enterrer le monsieur. Et en fait, le pire était encore à venir. Et en fait, la saison 11 d'American Horror Story est résumée en... On va faire d'une épidémie sur des animaux une métaphore de l'épidémie du sida, avec en même temps à côté un serial killer qui tue des homosexuels.
C'est que ça,
et c'est surexpliqué. C'est surexpliqué. Le personnage qui est joué par Russell Tovey, que j'aime beaucoup, est une honte. C'est une honte qu'on puisse encore faire des intrigues comme ça en 2022, surtout quand on est concerné par le sujet, surtout quand on a fait toutes ces saisons d'American Horror Story, de Glee, de Ratched, enfin, de toutes ces séries où il parle d'identité sexuelle, d'identité de genre, etc. Et où parfois il en parlait pas mal, il arrivait à en parler bien. Là, de faire ça maintenant, je trouve ça mais d'une honte. Enfin, il m'a vraiment mis en colère. J'ai terminé l'épisode, je me suis dit mais plus jamais je regarde ne serait-ce qu'une minute de ce qu'il peut produire ou faire. Donc, il faut s'en éloigner.
Et le renouvellement de Monster et de Watcher?
Oh, rien à foutre.
Non.
Bon, eh ben très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maxime, qui est influent, hein, donc voilà, notez bien. Merci, Mélanie, Stéphane et Aki.
Rien.
Avec plaisir.
Passez de bonnes, je ne sais pas quoi, regardez de bonnes séries, et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt, salut.
Oui, au revoir.
Bye.